L'Iran a augmenté à 300 km la portée du système antiaérien Bavar 373. 100 terroristes ont été tués dans le nord-ouest de la Syrie et l'Algérie et le PEP pleinement confiants quant aux conséquences des dernières réductions de la production de pétrole. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le commandant de la force de défense aérienne de l'armée iranienne, Alireza Sabahi Fard, a déclaré dimanche 16 octobre que l'Iran a augmenté à 300 km la portée opérationnelle de son système solaire de défense anti-aérienne. La montée en gamme du système national est proportionnelle aux menaces et l'Iran a d'ores et déjà testé le système à la nouvelle portée, a-t-il affirmé dans une académie militaire à Téhéran. En août 2019, l'Iran avait dévoilé le système de défense mobile conçu et fabriqué au niveau national avec une portée opérationnelle de 200 km pour intercepter les cibles hostiles pénétrant dans l'espace aérien iranien. Nous surveillons les ennemis dans leur base. La portée de nos radars s'étend sur des milliers de kilomètres, a noté le commandant iranien. Le système de missiles est doté de deux radars de détection et d'engagement qui peuvent résister à la guerre électronique et aux bombes électromagnétiques. En outre, ils sont capables de détecter les missiles anti-radiation utilisés pour contrer les défenses aériennes, employant des missiles d'une portée maximale de 300 km. Le système est capable de détecter et de cibler les avions ennemis au-delà des frontières iraniennes, de détecter jusqu'à 300 cibles en même temps, d'en suivre 60 et d'en engager 6. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que le président américain Joe Biden s'immisçait dans les affaires d'État de l'Iran en soutenant les émeutes dans le pays. Samedi, Joe Biden est ingéré pour la énième fois dans les affaires de l'État iranien en soutenant les émeutes, comme il le fait depuis le déclenchement des récents événements en Iran, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kanani. L'Iran n'a jamais cédé aux sanctions cruelles et aux menaces vaines des États-Unis et ne sera pas davantage déstabilisé par sa politique interventionniste et par cette vaine campagne, a ajouté M. Kanani. La veille, M. Biden a déclaré qu'il était surpris par le courage des gens qui descendent dans la rue pour protester en Iran. « Vos responsables américains avaient l'habitude de pêcher en eau trouble. Depuis le coup d'État de 1953 jusqu'à aujourd'hui, la politique anti-iranienne du gouvernement américain est restée gravée dans nos mémoires », a dit M. Kanani, le porte-parole de la diplomatie iranienne. Une première raffinerie de pétrole traitant du pétrole brut iranien à l'extérieur du pays a commencé ses activités selon un communiqué du ministre iranien du pétrole, Javad Oji, qui a déclaré que le projet au Venezuela serait reproduit dans d'autres parties du monde. M. Oji a déclaré dimanche 16 octobre que l'Iran avait commencé à traiter quelques 100 000 barils par jour de brut produit dans les champs pétrolifères iraniens de la raffinerie vénézuélienne d'El Palito. Il a déclaré que le projet s'était concrétisé grâce aux efforts du département du carburant du ministère iranien du pétrole. El Palito est situé au centre du Venezuela. Le département du carburant du ministère iranien du pétrole, NIORDC, a signé en mai un contrat de 116 millions de dollars avec la société pétrolière politique vénézuélienne PDVSA pour réparer et agrandir la raffinerie. L'Iran et le Venezuela ont cherché à étendre leurs liens économiques et énergétiques ces dernières années dans le but de contrer les sanctions américaines qui ont ciblé leur exportation de pétrole brut. L'Iran a par le passé fourni de l'essence, du condensat, des pièces de raffinerie et une assistance technique au Venezuela en échange d'expéditions de pétrole lourd du pays. Cela survient alors que le NIORDC aurait obtenu un contrat pour démarrer les travaux de la plus grande raffinerie du Venezuela, la Paraguana. Des rapports ont également suggéré que le ministère iranien du pétrole envisage des projets similaires dans d'autres pays d'Amérique latine, y compris au Nicaragua. En Syrie, les forces aérospatiales russes ont lancé des frappes aériennes sur un camp d'entraînement militant et un poste de commandement de formation armée terroriste, éliminant au moins 100 terroristes. C'est ce qu'a déclaré le dimanche 16 octobre le major général Oleg Yegorov, chef adjoint du centre du ministère russe de la Défense pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Il a annoncé que les affrontements font rage entre les forces armées dans les deux régions d'Afrin et d'Azaz, dans les régions du nord-ouest de la Syrie, qui sont sous le contrôle de la Turquie. afin de faire face au groupe terroriste. L'armée de l'air russe a bombardé une base d'entraînement des terroristes située à 1 kilomètre au nord-est de la ville de Ratma et de leur centre de commandement. A-t-il dit, ajoutant que des entrepôts d'armes, des munitions, le quartier général du camp et 15 véhicules des terroristes qui étaient équipés de mitrailleuses lourdes avaient été détruits dans des frappes des forces aérospatiales russes. Le groupe terroriste Tahrir al-Sham a pris le contrôle de la ville d'Afrin après la fin du délai de 6 heures. Le 3e corps de l'armée nationale syrienne a quitté Afrin et au même moment, des convois militaires de Tahrir al-Sham sont arrivés au centre d'Afrin. La livraison al-Hamz. La division al-Hamza, en collaboration avec la division Suleiman Shah, qui était soutenue par HTC, le groupe Tahrir al-Sham, dans la lutte contre le 3e corps, a réussi à prendre le contrôle de plusieurs points de contrôle et du passage de Amaran dans la campagne de Jarablus, située dans le soi-disant bouclier de l'Euphrate, à l'est du gouvernorat d'Alep. Le HTC a avancé rapidement dans les banlieues nord et sud d'Afrin et atteint le poste frontière d'Al-Hammam dans le nord-ouest d'Afrin afin de surplomber le terminal frontalier le plus important entre Afrin et la Turquie. Tahrir al-Sham a pris le contrôle du poste frontière d'Atma dans le nord syrien avant de s'emparer de toutes les frontières communes entre la Syrie et la province de Kilis en Turquie. Dans le même temps, ses membres ont attaqué les zones autour de la ville d'Al-Bab, capturant à nouveau les zones qu'ils avaient perdues les jours précédents. L'Algérie et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, se sont déclarées dimanche à Alger pleinement confiantes quant aux conséquences qui découleront de la dernière décision prise par l'OPEP et ses alliés de réduire la production du brut sur le marché international, a indiqué le ministère algérien de l'Énergie et des Mines dans un communiqué. Le secrétaire général de l'OPEP, Aïssam Al-Raïs, en visite en Algérie, a discuté avec le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, de la situation sur le marché pétrolier international et de ses perspectives d'évolution à court et moyen terme. Face aux incertitudes qui pèsent sur le marché pétrolier international depuis plusieurs semaines, messieurs Arkab et Al-Raïs se sont dit pleinement confiants quant aux retombées positives de l'accord du 5 octobre 2022 adopté à Vienne, qui vise à réduire la production totale de 2 millions de barils par jour à compter du 1er novembre 2022, a précisé le ministère. Par ailleurs, les deux hommes ont évoqué les défis majeurs auxquels l'industrie pétrolière mondiale fait face, ainsi que les moyens de les surmonter par un renforcement de la coordination et du rôle stabilisateur du marché pétrolier que joue l'OPEP et ses alliés rassemblés sous le nom d'OPEP+. Les autorités somaliennes vont fermer les entreprises, les magasins et autres sociétés qui ne respectent pas l'ordre du gouvernement fédéral de ne pas payer d'impôts ou de faire autre versement aux structures mises en place par le groupe terroriste Al-Shabaab. C'est ce qu'a déclaré le ministre somalien du Commerce et de l'Industrie. Nous allons annuler les licences des sociétés convaincues de liens financiers avec Al-Shabaab, a déclaré le ministre cité par le site d'actualité Somali Guardian. Nous avons par ailleurs l'intention de confisquer les entreprises travaillant pour le compte des terroristes. Le ministre a indiqué que les autorités avaient identifié 4 sociétés d'import liées aux structures d'Al-Shabaab. Les terroristes pouvaient ainsi percevoir les droits de douane dans le port de Mogadiscio pour financer leurs activités. Le groupe Al-Shabaab a été formé en Somalie en 2004. Ces terroristes organisent régulièrement des attaques depuis 2008. Le groupe contrôlait un large territoire en 2010, mais a été repoussé à l'été 2011 hors de Mogadiscio. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Belgorod vengé à Altanf. Qu'est-ce qui empêcherait le commandant en chef des forces russes en Syrie d'agir de la même manière qu'agit en ce moment les atlantistes à Belgorod? Selon une toute dernière information, les habitants continuent à signaler des explosions, lesquelles supposent que les Américains, trop remontés contre le tournant asymétrique que prennent à la faveur des drones et des missiles tactiques la guerre en Ukraine, sont là en phase de rendre l'appareil et de pilonner copieusement le territoire russe. Cet après-midi, le territoire de Belgorod a subi l'un des bombardements les plus violents en provenance d'Ukraine. Nous parlons des lancements de nombreux missiles dont le type et la nature n'ont pas encore été clarifiés. Une partie des missiles ont été neutralisés en les interceptant avec des systèmes de défense aérienne. L'un a détruit et endommagé des infrastructures urbaines, laissant également au moins 2 victimes. Plusieurs munitions ont d'abord été tirées sur le territoire de Belgorod, après quoi des bombardements massifs ont commencé. À l'heure actuelle, les résidents locaux signalent au moins 20 explosions. Cependant, nous parlons également du travail des équipements de défense aérienne. Les habitants de Belgorod enregistrent également de grands cratères d'explosions et en outre, un certain nombre de sources signalent des explosions en direction de l'aéroport de Belgorod. Le nombre exact de cibles abattues n'est pas encore connu. Cependant, selon les citoyens, au moins 10 antimissiles ont atteint avec succès des cibles. En effet, entre d'une part Belgorod, que l'axe US-OTAN frappe à la fois à coups de armes AGTMS et de HIMARS, et ce, sans façon, ce qui fait de son acte une totale fuite en avant et le territoire syrien de l'autre, il y a en ce moment un point commun, l'activité de la DSA, et sur ce point-là, le camp d'en face a tout à envier. Quelques 10 missiles sol-air AGTMS interceptés sur un total de 20, cela veut dire un taux d'interception de 50%, soit infiniment meilleur que tout ce qu'a pu faire cette semaine la DSA US-OTAN-Ukraine face aux combinaisons drone-missiles russes ou encore un taux d'interception semblable à DSA syrienne qui tout au long de l'été a cassé comme des noix les missiles air-sol d'Elida d'Israël. Au point de pousser les sionistes à changer non seulement leur modus operandi, de fond en comble, à savoir placer leurs F-16 dans des corridors internationaux au lieu de les fixer dans le ciel du Liban ou de la Jordanie, mais encore à modifier leur type d'engin faisant appel aux missiles hypersoniques Rampage de 5e génération, Icebreaker ou encore Ice Spice 2000, si ardemment médiatisé, mais là encore avec des taux de succès relativement limités. Au fait, que les Américains le veuillent ou pas, il est clair que le ciblage direct du territoire russe finira à mesure qu'il agrandira par se répercuter sur leur contingent en Syrie, surtout que les signes s'en multiplient déjà. Le 12 octobre déjà, des avions de combat des forces aérospatiales russes, VKS, ont effectué une série de frappes aériennes dans la région centrale de la Syrie, les frappes ayant visé les cachettes des cellules des agents daéchistes US à la périphérie de la ville de Rezafa, dans la campagne méridionale de Raqqa, ou encore plus proche d'Al-Tanf, soit dans la ville d'Al-Sukhna à Homs. Évidemment, il s'agissait pour les Russes de prévoir ce qui vient de se produire il y a de cela 2 jours, à savoir cette attaque très meurtrière des agents US contre un bus de l'armée syrienne avec son bilan de 18 soldats tués. Mais puisque les Américains continuent malgré les frappes russes à reconstituer ces mêmes cellules, il y a des voix qui réclament des frappes directes contre Al-Tanf. Car, à regarder de plus près, Belgorod n'aurait jamais pu être pris si sauvagement pour cible comme l'a été le pont de Kerch sans appui satellitaire direct US-OTAN et le fait de vouloir le renier et le mettre sur le compte de l'armée ukrainienne comme l'a fait le président Poutine dans le cas de la Crimée ne ferait qu'emparer les choses. La nécessité de créer un levier de pression contre les États-Unis qui est pour le décor le devant, c'est d'autant plus perceptible que depuis quelques jours seulement, on assiste à l'émergence des soldats atlantistes en plein théâtre syrien.